Leader et Manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et Manager, une émission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et Manager, une émission d'information.
Voilà, l'émission d'aujourd'hui nous invite à réfléchir sur l'importance de ce qui nous inspire, nous guide et nous aide à progresser tant dans la vie personnelle que professionnelle. Bienvenue à cette émission Leader et Manager, partout où vous êtes branchés et connectés, on vous salue. Un plaisir pour moi de recevoir encore le permanent de cette émission, Monsieur Simon. Bonsoir, bonjour.
Bonjour Bob, bonjour à nos auditeurs, auditrices et internautes.
Merci beaucoup d'être là et merci de ces sens du management et leadership. Un invité détail aujourd'hui avec nous, je l'ai annoncé depuis tout à l'heure, c'est bien monsieur Colin Nzolatima, j'apprends que c'est un pasteur.
Oui, il est chef d'entreprise voilà. Et évangéliste.
Ah ok, soyez les bienvenus parmi nous, monsieur Colin Nzolatima.
Je vous remercie, merci de m'avoir accueilli dans vos studio.
Merci d'être là. Le thème de cette émission, qui est ton mentor? Je l'avais annoncé, votre parcours exceptionnel en tant que chef d'entreprise en fait une source d'inspiration unique pour beaucoup et nous sommes impatients d'attendre votre expérience et de découvrir qui a été votre parcours, quelles figures ont marqué votre chemin. Voilà pourquoi vous êtes là pour nous parler de ces thèmes. Qui est ton mentor? Mais je rappelle notre numéro pour participer en direct à cette émission, 0 81 99 66 0 98. Les règles, on va commencer avec la partie magistrale. Vous allez nous expliquer, parler de ces thèmes et au moment opportun nous allons associer les internautes et auditeurs. Des questions à répondre en direct. Sans plus tarder, je pense qu'on va accorder la parole.
Bon, je vais juste présenter
allez-y.
Mon ami et frère Colin Nzolatima, qui est économiste de formation, diplômé de l'ICHEC à Bruxelles, et chef d'entreprise. Il est chef d'une entreprise qui s'appelle Scherzo, et président d'une fondation chrétienne, la fondation El Shaddai, qui organise notamment des formations au leadership, des formations au management et des formations même dans l'encadrement en matière de production et de transformation des produits agricoles.
Merci mon frère Simon. Mon parcours, qui est mon mentor? Quelle est la question? Je crois que la première chose, le plus grand mentor, c'est Dieu lui-même. Dans les principes bibliques, il y a deux impératifs que normalement nous tous nous devions garder et que nos parents aussi ont gardé. Le premier principe, c'est dominer la terre, assujettir la terre. Et c'est ainsi que vous avez plusieurs pays qui ont adopté ces principes, se sont battus pour préserver, protéger leur environnement. Et vous verrez par exemple que, aux Pays-Bas, ils avaient connu en 1956, je crois, la digue qui s'était effondrée, il y a eu plus de 2000 morts. Depuis lors, les Néerlandais ont créé la plus grande digue et avec une grande ingéniosité qui fait que jusqu'à ce jour, il n'y a plus de morts, de grandes inondations. Deuxième principe, c'est la préservation de la vie. Donc tout ce qu'on peut faire comme activité, il faut préserver la vie de son prochain. Alors, quand on regarde dans un texte qu'on a pu lire, c'est que le mentor, quand on pose la question aux différents dirigeants, les grands hommes d'affaires, ils se réfèrent toujours à certains mentors. Et à la fin, on se rend compte que le plus grand mentor, c'était, si je prends dans le cas des Juifs, le plus grand mentor, c'était le rabbin qui a enseigné, qui a véhiculé les vertus du travail. Et je me souviens toujours, quand j'ai terminé mes études, mon père me disait toujours qu'on ne fait pas des affaires pour gagner de l'argent. On fait des affaires pour résoudre le problème de la communauté. Je lui ai dit, mais pourquoi vous m'avez envoyé étudier si c'est pour juste ne pas gagner de l'argent. Il me dit non. On fait des affaires parce qu'on doit résoudre un problème de l'environnement. Et c'est après qu'on gagne l'argent. L'argent ne doit pas être la première priorité. Et au fil des années, on a pu se rendre compte que, effectivement, ce qui est important, parce que mon père m'a beaucoup influencé dans ce cas des affaires, et je me suis rendu compte que chaque fois qu'il faut faire une affaire, il faut regarder autour. Et aujourd'hui, quand nous observons, on n'a plus de mentors. Nous n'avons plus de mentors parce que tout le monde se bat pour gagner de l'argent. Et quand on regarde même les déchets qu'il y a dans la ville, tout le reste, parce que les gens n'ont plus de mentors. Chacun jette sa bouteille, ses sachets, n'importe où. L'essentiel, c'est de gagner de l'argent. Donc, nous devons revenir à ce que nos parents avaient comme idéal, les formations qu'ils ont eues. On parlait tout à l'heure de Papa Iléo, on a parlé d'autres responsables qui ont gardé des vertus. Donc, le mentorat commence d'abord par une certaine discipline. Le mentorat, dans tous les domaines, quel que soit le domaine dans lequel on se retrouve, on doit travailler pour l'intérêt de la communauté. C'est ainsi que, dans les différents talents que Dieu a donnés, qu'on soit sentinelle, qu'on soit huissier, qu'on soit menuisier, qu'on soit restaurateur, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire selon les règles de Dieu pour préserver la vie, pour dominer autour de nous. On ne doit pas subir les événements. On doit anticiper sur les situations. C'est pour cela que les principes de Néhémie sont importants pour tout chrétien, pour tout homme d'affaires. Faire d'abord un état des lieux, du milieu où il se trouve. Identifier un problème spécifique. Et ensuite, chercher les causes, pas résoudre les conséquences. Enfin, régler les conséquences. Il faut d'abord identifier les causes. Et par après, trouver les différentes pistes de solutions. Et cinquièmement, mettre en place une stratégie qui te permet, à moindre coût, de résoudre le problème. À moindre coût. Je vais juste illustrer un petit exemple et après je laisserai mon frère Simon compléter. À l'époque, j'avais observé, je suis allé rendre visite à un ami qui avait construit une très belle maison, mais il avait mis des cartons sur les fenêtres. Je lui ai posé la question, pourquoi tu as mis des cartons? Il me dit, les vitres coûtent cher. Et en ce moment, j'ai senti en moi cette conviction de Dieu de faire baisser les prix des vitres. Je suis allé me renseigner chez All Glass, qui était le grand vendeur de vitres, et le prix de vitres était de $23.50 le mètre carré. Et j'ai fait des démarches au niveau du Nigeria. Les prix de vitres achetés, rendus, mes entrepôts, étaient de $10. Et j'ai commencé à vendre les vitres en commençant à baisser les prix. En moins de 2 ans, dans la ville de Kinshasa, on a acheté les vitres, le mètre carré, à $10. Bon, bien que j'avais eu d'autres circuits où je commençais à vendre, à acheter à $6 rendu entrepôt. Donc, ce qui fait que nous avons la mission d'impacter notre environnement. En 91, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'enfants dans la rue et nous avons créé des écoles gratuites. Des écoles gratuites et qui ont permis à plus de 5000 enfants de 91 jusqu'en 2004 environ, de pouvoir étudier gratuitement, bénéficier. Donc, parce que mon père a bénéficié de ça, après la mort du grand-père, il a bénéficié avec les frais de Tumba, où il a étudié gratuitement, on l'a pris en charge. Donc, cet exemple nous a impacté et nous a poussé aussi à créer des écoles pour aider ceux qui n'ont pas des moyens. Donc, voilà un peu. C'est pour ça que j'ai le nom de Colin pour le frère Colin Michel, qui était frère des écoles chrétiennes à Tumba, qui avait pris papa en charge. Il avait coupé sa soutane pour habiller papa. Et c'est ainsi, par reconnaissance, papa m'a donné le nom de Colin Michel. Donc, vous voyez, donc, il y a toujours des mentors, des gens qui vous impactent et qui doivent vous conduire à faire mieux dans la société. Sans un mentor intègre, parce qu'il y a aussi des mentors qui vous entraîne dans le mal, mais un mentor intègre qui a des vertus, la crainte de Dieu, ça vous permet d'aller très loin et de pérenniser vos actions.
Voilà, mais j'aimerais bien, frère Colin, avant que j'intervienne, que tu nous parles un peu de la réussite des Juifs. Comment le mentorat a permis la réussite des Juifs dans les domaines des affaires où ils excellent.
Alors, je répondrai à cette question en citant le vieux Wamba Diabo Wamba. Quand ils étaient à l'université aux États-Unis, ils terminaient les cours, bon, tous les étudiants partaient. Et puis, comme il était brillant, un jour, le groupe des Juifs l'appelle. Qu'est-ce qu'il va découvrir? Qu'après les cours, les Juifs se retrouvaient avec tous les grands savants, tous les grands intellectuels dans un autre groupe où on les orientait déjà dans les choses à venir. Donc, ce qui faisait que quand vous sortiez tous en ayant les mêmes diplômes, mais eux, ils avaient une expérience de plus parce qu'ils étaient au courant qu'il y avait l'évolution nucléaire et tout le reste. Donc, ils étaient déjà prêts. Donc, les Juifs, il y a toujours quelqu'un qui vous prend, qui vous forme. Donc, quand vous travaillez, on vous identifie, on vous met à côté d'un grand qui connaît la matière, qui va vous coacher, en quelque sorte. Et celui-là aussi a été coaché par quelqu'un d'autre. Et finalement, on se rend compte que chez les Juifs, ce n'est pas ce qui est extérieur qui compte, c'est l'intérieur. Mais quand ils ont l'argent, l'argent doit être investi pour l'intérêt de la communauté. On n'est pas là pour dilapider de l'argent. Aujourd'hui, chez les Juifs, tout argent qu'ils ont, c'est pour servir le bien de la communauté. Ils vont développer la technologie, la science, ainsi de suite, pour l'intérêt de la communauté. Et les Juifs, et c'est toujours au sein de la communauté qu'on doit créer des activités. Donc, chacun est formé dans tous les domaines appropriés de la société. Chacun a un mentor. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez trouver que chez les Juifs, les grandes recherches, les plus grands savants sortent de chez les Juifs. Vous avez les grands hommes d'affaires chez les Juifs. Parce qu'il y a toujours ce principe de multiplication, pas de dilapidation. Dans nos pays, nous dilapidons. Quand on a des deuils, il faut vraiment le spectaculaire. Mais nous n'avons pas cette culture de prévenir, de créer des activités. L'argent que nous dépensons, que ce soit dans les deuils, dans les mariages, pouvait constituer des grandes unités d'affaires. Et chez les Juifs, tous les enfants qui vont à l'école, ils ont presque les mêmes habits. Entre le pauvre et le riche, ils vont dans la même école. Ils apprennent les mêmes valeurs. Parce que ce n'est pas l'argent qui te donne un titre, mais ce sont les valeurs qui te permettent d'être dans la société et d'évoluer dans la société. Toutes les règles qui sont données, comment permettre aux uns et aux autres d'évoluer. Donc, ils vivent en communauté, ils résolvent le problème de la communauté et le reste, maintenant, si ça peut aller à l'extérieur, tant mieux. Mais d'abord au sein de la communauté. Or, chez nous, nous avons tendance à tout dilapider pour aller mendier. Chez les Juifs, aller mendier, c'est une honte. On ne mendie pas. Chacun doit travailler. C'est ainsi que la loi du glanage, ok? Tu es pauvre, tu dois aller glaner. Tu dois aller, on laisse une partie pour le pauvre qui doit travailler. On ne donne pas aux pauvres. On permet aux pauvres de se prendre en charge. Donc, voilà le type de mentorat que nous avons. Ici, vous passez dans la rue, tout le monde vous regarde préso. Les gens attendent comme si vous aviez eu l'argent quelque part pour distribuer. Et les gens ne veulent pas travailler. Nous faisons aujourd'hui le travail maraîcher hors sol. Ça ne coûte absolument rien. 0 francs, tu peux commencer le business. Mais vous avez toujours des gens, vous leur avez expliqué, mais ils veulent nécessairement que vous puissiez seulement donner l'argent. Vous leur montrez comment se prendre en charge. En moins de 20 jours, toutes les familles à Kinshasa peuvent économiser 100 000 francs congolais par mois. Toutes les familles, je dis bien toutes les familles, peuvent économiser 100 000 francs congolais par mois. Mais simplement, la facilité, on veut toujours aller au marché, on veut toujours dilapider, alors que chacun peut planter ses légumes dans la parcelle. Chacun peut avoir l'ail en moins de 5 jours. En moins de 5 jours, tu commences à produire ton ail à la maison. Mais chaque mois, la ville de Kinshasa dépense 2 millions de dollars, rien que pour l'importation de l'ail. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Chez les Juifs, c'est pour ça que vous voyez Israël. C'est un petit État au milieu de des millions ou des milliards des Arabes qui sont là. Mais ils sont autosuffisants. Pourquoi ? Parce qu'ils ont développé cette capacité de se prendre en charge, de dominer la nature. Et l'eau salée, ils arrivent à les transformer en eau potable. Le désert, ils le transforment en terre fertile. Ils travaillent. Et ce sont eux aussi qui exportent leur nourriture à l'extérieur de leur pays. Donc voilà un peu en quelques mots ce que je pourrais dire. Et je sais que mon frère Simon est très fécond dans beaucoup de ces éléments. Il va toujours compléter.
Alors aujourd'hui, mon frère Colin, vous êtes notre invité. Je vais poser une dernière question avant peut-être d'ouvrir les échanges. Vous avez parlé du cas d'Israël, où les matoras fonctionnent. Les enfants sont formés sous les guidages des matoras. Qu'est-ce qui fait que ici chez nous, ça ne marche pas? Je prends l'exemple de votre famille, Papa Zolantima, qui a été un homme d'affaires prospère, self-made man, après ses études. Il est de cette génération des grands hommes d'affaires congolais, de la génération de l'indépendance. Vous, ses enfants, vous êtes tous des entrepreneurs. Il y a Bona dans l'imprimerie, vous-même dans l'agriculture, la construction, la formation. Laël dans la...
Docteur Magloire.
Docteur Magloire dans...
l'ophtalmologie.
Dans l'ophtalmologie. Mais comment expliquer que la plupart, pour ne pas dire presque tous les autres les hommes d'affaires congolais, n'ont pas réussi à transmettre cette fibre entrepreneuriale à leurs enfants? Après leur mort, après leur retour au Seigneur, leurs affaires se sont pratiquement toutes effondrées.
Je crois que disons la grâce qu'on a pu avoir avec papa, c'est que dès le bas âge, il responsabilisait chaque enfant. Dès le bas âge. Et lorsque nous sommes arrivés au point de commencer à monter des affaires, il nous encadrait. Il a laissé chaque enfant, donc, commencer déjà à donner des responsabilités. Mutabona, Dispomalt, qui a commencé par la vente de bière, mettre les panneaux. Les gens se moquaient de lui. Papa lui disait, persévère. Ça, c'est ton champ. Parce que Mutabona, nous le savons, en ce qui concerne tout ce qui est conception, c'est un don qu'il a en lui. Et papa l'a encouragé dans ce sens-là. Aujourd'hui, quand les gens voient les panneaux, ils voient ce qu'il fait, mais les gens ne savent pas d'où il vient. Parce que dans cette formation, il y a eu des chutes. Mais c'est pour ça que la Bible dit, l'héritage du Père est pour les petits-enfants. Ce n'est pas pour les enfants. Parce que du vivant du Père qui doit encadrer les enfants, les encourager. Alors, je prends mon propre cas. Quand j'ai commencé à me lancer corps et âme dans l'évangélisation, un jour il m'a appelé, il m'a dit « Tu ne peux pas faire l'évangile si tu n'as pas une activité pour aider les gens. » Il dit donc « Arrête de trop te concentrer dans tes affaires, dans la prédication, crée une activité. » Et c'est ainsi que lui, il m'encadrait à sa manière. Il m'encadrait. Et ça m'a beaucoup aidé, même aujourd'hui dans l'évangélisation. Quand j'arrive quelque part, il faut observer. Je prends le cas de mon jeune frère, le docteur Magloire. C'était la même chose. Quand papa a senti qu'il avait cette passion, papa l'a encadré, l'a encouragé. Il y a eu des chutes, il y a eu des moments où il devait aller faire des formations. C'était difficile. Mais papa s'est investi dans ce domaine-là. Donc voilà un peu... Je peux dire le secret de papa, c'est que de son vivant, il nous a laissé chacun dans son appel, dans sa vocation. Il a simplement encadré en insistant toujours, ce qui est à toi est à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Ne touche jamais à ce qui ne t'appartient pas. Travaille avec la sueur de ton front. Tu n'as pas à exposer ta nudité chez les gens. Tu travailles si tu n'as rien. Et ça, on a vu ça avec papa. Quelquefois, de l'extérieur, les gens voyaient qu'il y avait beaucoup d'argent, mais c'était une question de gestion. Il se disait, OK, si je n'ai pas besoin de Mercedes, il roulait dans sa Fiat. Mais quand il allait dans une réception, il était dans sa Fiat, il n'avait pas à mendier pour que quelqu'un le raccompagne. Il y a des gens qui venaient avec des Mercedes 600, tu connais l'époque. Mais papa se contentait de ce qu'il avait. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse qui est là, ceux qui nous écoutent, doivent savoir qu'il faut travailler selon tes potentialités, te limiter et attendre le temps de Dieu. La bénédiction vient du temps de Dieu. Papa nous a expliqué, il a aidé des jeunes qui étaient partis étudier. Parce que si vous venez au bureau, il y a des carrelages qui sont là que j'appelle « N'oublie jamais ton histoire ». Et papa, quand j'ai voulu appliquer les règles financières et tout, il m'a dit non. Il dit « Regarde ces carreaux. Ces carreaux, il y a un jeune homme que j'ai aidé qui allait à l'université. Et quand ce jeune homme a terminé, il était engagé dans le cabinet Birindo. Et il y a eu la mission Chine-Zaïre, la délégation qui devait aller en Chine. Sans que papa soit au courant, le monsieur a fait toutes les démarches, mobilisé l'argent à la banque centrale, les billets d'avion et tout. Quand tout était prêt, il est venu voir papa. Il dit, papa, il y a une mission en Chine, j'aimerais que tu partes. Papa dit, je ne partirai pas, Mao c'est un dictateur et tout et tout. Mais bref, il a pu convaincre papa, comme papa ne voulait toujours pas, il dit, ok, papa, de toute manière c'est trop tard, voici les billets d'avion, voici le fonds mobilisé pour vous. Et c'est ce qui a fait que papa est parti. À son retour, il a pu acheter des maisons. Il a pu faire tout ce qu'il devait faire. Donc, nous devons savoir que partout où Dieu nous met, nous devons avoir la compassion d'abord de nos frères. Parce qu'on ne sait jamais la personne que vous aidez aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut devenir demain. Voilà un peu la clé. Et même Moutabona, il a reçu beaucoup de marchés, des personnes qu'il a aidées plus tard. Le docteur Madloire, après avoir aidé les gens, des gens qui étaient presque aveugles, il les a soignés. Et les gens, par reconnaissance, sont revenus. Mbuta Machakado, ok? Yaya Mbuta Machakado, comme santé Zaïko. Ben, il a été aussi un modèle, un coach. Voilà.
D'accord. Avec l'éthique, comme disait Père Roger tout à l'heure, les affaires sans éthique, c'est l'enfer.
Évidemment.
Merci, merci, merci beaucoup à Monsieur Colin Zolatima. Nous rappelons que nous sommes en direct, c'est l'émission Leader et Manager. Qui est ton mentor? C'est le thème de cette émission. Tout de suite, nous allons associer les auditeurs, auditrices, pourquoi pas internautes, au 081 99 66 098. 081 99 66 098, nous sommes en direct. Contactez-nous, écrivez-nous à travers ce numéro. Nous allons vous accorder la parole et soyez bref et posez votre question. Nous rentrons de l'autre côté de la technique. Radis, un morceau de musique.
Travaillons, nous gagnerons tout ce monde sans injustice. Et temps en sol, nous bâtirons la vie. Sans préjudice, travaillons, nous gagnerons tout ce monde sans injustice. Mettons ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice à celui qui déploie l'effort, donnant un juste revenu, revendiqué. Ce n'est pas un tort lorsque l'homme s'est bien tenu. Le travail nous libérera, la justice se brisera. Le travail nous libérera, la justice se brisera. Travaillons, nous gagnerons. Tout ce monde sans injustice, et temps ensemble, nous bâtirons la vie sans préjudice. Travaillons, nous gagnerons. Tout ce monde sans injustice, butons ensemble.
Bien voilà, nous sommes de retour en direct de Kinshasa, en direct de l'émission Leader et Manager. Contactez-nous au 081 99 66 0 98. La parole est de l'autre côté. Prière de nous écrire à ces numéros. Monsieur Colin Zolatima, vous entendez parler, vous avez beaucoup parlé, vous avez raison, faire l'éloge de votre papa. Mais maintenant la réalité est différente. Hein. Vous, en tant que parent, on désoriente peut-être, excusez-moi de le dire comme ça, on désoriente souvent les enfants. Si vous partez dans des universités, côté technique, il y a moins d'étudiants. Mais médecine, droit, ainsi de suite, en fait, on ne sait pas aussi canaliser les dons de l'enfant comme vous. Des enfants qu'on vient de les dire, les cas de votre famille.
C'est vrai. Je crois que le vrai problème, même au niveau du pays, nous n'avons pas fait un état des lieux. Nous avons un pays agricole. Nous avons 80 millions de terres arables. Combien d'écoles agricoles pour orienter ces enfants? Parce que toute intervention, que ce soit dans les affaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour résoudre le problème de l'environnement. Nous avons 26 millions de personnes qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Ça a été publié dernièrement. Ça, ce n'est que 26 ceux qui sont dans l'insécurité alimentaire. Sans compter tous ceux qui, tous les jours, ne mangent qu'une fois par jour. Les différentes maladies que nous avons, ce sont des maladies provenant de la mauvaise alimentation. Nous mangeons quoi? Nous mangeons les croupions de dinde, nous mangeons les yeux de poisson. Je dis bien les yeux de poisson. J'avais la chambre froide. Un jour, j'arrive là-bas, je vois les sachets par terre, je pose la question, qu'est-ce qui se passe? On me dit, les mamans sont venues retourner le poisson. Je dis, pourquoi? C'est frais, ça venait de Damso. On a le bateau est arrivé la veille, le lendemain, on me l'a livré. Il dit, non, parce qu'il n'y a pas des yeux. Je dis, mais, et s'il n'y a pas des yeux, quel est le problème? Les travailleurs me regardent, ils disent, patron, tu n'es pas au courant? On vend maintenant des bottes des yeux au marché, que les mamans viennent acheter. Et ça date de plus de 25 ans. Donc, c'est ce qui nous a motivés à pousser les gens à travailler. Donc, ce que je voudrais dire, vous savez l'école de Mombele qui formait des techniciens agricoles. Aujourd'hui, cette école est pratiquement détruite. Donc, nous devons d'abord faire un état des lieux. Pourquoi? Parce que les gens veulent le droit et autres, parce que tout le monde vise la politique. Parce que les gens se disent, en politique, on va gagner beaucoup d'argent. C'est le chemin le plus court. Donc, c'est ce qui fait qu'on n'a pas de techniciens. Hier, le pont à Boma s'est écroulé. Il y a eu des morts lors de l'inondation. Les gens veulent parler de causes naturelles. C'est faux. Ce n'est pas le problème de causes naturelles. Où sont les ingénieurs? Et nous tous, nous passions par là. On voyait la fragilité du pont. Donc, au lieu d'orienter, on a parlé, il y a l'émir du Qatar qui est arrivé. On parle de 27 milliards. Où sont les techniciens qui vont travailler? Nous allons avoir des Indiens, nous allons avoir des gens qui vont venir ici, les Congolais ne vont pas travailler. Donc je crois que c'est à ça que nous devons, même nous les parents, nous devons d'abord faire un état des lieux pour voir comment orienter nos enfants dans des tâches bien spécifiques, pas des choses de blabla.
Merci beaucoup, 081 99 66 0 98. Une question qu'on vous pose, bonjour Monsieur Nzolatima et Monsieur Simo. Bonjour Bob, félicitations pour cette émission. Quoi faire parce que nous sommes butés avec des mentors qui nous déçoivent?
Bon, les mentors qui nous déçoivent, c'est normal. C'est normal dans la vie, il ne faut pas croire que tout sera rose. Hein, moi-même, j'ai eu aussi des mentors avant que je puisse vraiment m'accrocher à mon père. J'ai eu des mentors qui ont abusé de moi, je peux dire, parce que les gens voyaient que tu avais l'argent, on faisait des grandes affaires en ce moment-là. Et les gens disent, bon, on va le voir, mais en réalité, les gens avaient plus besoin de ton argent. Les conseils qu'on te donnait, c'était juste pour te rouler. Donc, il faut que d'abord que les gens aient eux-mêmes la crainte de Dieu, que les gens eux-mêmes aiment Dieu, veulent travailler de leurs propres mains. Jésus a dit, qu'est-ce que vous avez entre vos mains? Ça, c'est la première question. Moïse, Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Et est-ce que les gens qui posent la question, avant d'être aidés, est-ce qu'ils connaissent les talents, les dons que Dieu leur a donnés? On ne peut pas bâtir sur autre chose. On ne bâtit que sur ce qu'on a. Et à partir de là, on met toute l'intégrité pour avancer. Je ne sais pas si mon frère...
Je veux juste ajouter que le mentorat doit toujours être basé sur une relation de confiance. Quand il n'y a pas une relation de confiance, il ne faut pas avancer. Ce n'est pas seulement un problème technique, c'est un problème de partage d'expérience, de partage de respect, de confiance, parce que c'est un mentor, c'est quelqu'un qui vous donne des conseils personnalisés, donc avec lesquels il faut avoir une relation profonde, de connaissances mutuelles, et ce n'est pas le premier venu qui doit être votre mentor.
Vous pensez que sans mentor, vous ne pouvez pas atteindre le paroxysme?
Sans mentor, vous risquez de perdre beaucoup de temps, parce que vous allez tomber, il y a des choses pour lesquelles la personne va simplement vous guider, vous dire, je suis passé par là. Ok, je suis passé par là, attention à ce que vous faites. Je prends juste un cas. Un jour, un monsieur m'appelle de Bangui. Il veut acheter 500 tonnes de ciment. J'étais tout exalté. J'ai passé la commande à l'usine. Préparez-moi 500 tonnes. Et j'informe mon père tout en étant heureux. J'ai dit, papa, on a eu un gros marché de 500 tonnes pour la République centrafricaine. Papa me dit, est-ce qu'il a signé la licence d'importation? Je dis, mais non, c'est un monsieur que je connais. Dit, prends l'avion, tu vas à Guémena et tu vas jusque là. S'il n'ouvre pas, tu n'en vois pas. J'étais très mécontent, mais je suis quand même parti. Je suis allé jusqu'à Zongo. J'ai traversé, je suis allé à Bangui. Quand je rencontre le monsieur, je dis, bon voilà, les marchandises sont chargées, mais la Banque centrale m'exige une licence d'importation. Le monsieur a disparu. Et finalement, les gens m'ont dit, c'était un grand escroc. Heureusement que tu n'as pas amené les marchandises. Donc, vous voyez que si je n'avais pas écouté mon père, j'aurais perdu beaucoup d'argent pour lequel aujourd'hui, je devrais continuer à payer.
Et pour compléter, Colin, il a été dans les chambres froides. Moi, je suis passé par là. Il était dans les ciments, dans les dépôts de boissons. Vous savez que les gens que vous mettez, quand vous voulez vous engager dans une telle activité, vous devez chercher à savoir ceux qui sont passés par là, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme problème, comme erreur. Il y a des gens, ils vendent de la marchandise, ils vont se réapprovisionner. Hein? Vous avez laissé 500 cartons, ils ont vendu 100 cartons. Ils se sont réapprovisionnés. Vous venez trouver qu'il y a 480 cartons.
Ils n'ont vendu que 20.
Donc, vous avez des boissons que les gens ont vendues, ils font la même chose. Ils remplissent les bouteilles avec de l'eau, ils mettent les bouchons. Vous venez vous trouver que tout est au complet. Donc, c'est partage d'expérience-là, par un mentor qui est passé par là, sur le plan professionnel, sur le plan éthique, sur le plan relationnel, ça vous aide à gagner du temps, contrairement à quelqu'un qui se lance tête baissée.
Juste pour ajouter, c'est ainsi que nous demandons aux universités, nous faisons des démarches avec plusieurs universités, qu'on nous appelle, on n'a pas besoin d'avoir des cursus clairs, seulement des séminaires, qu'on vienne partager. Nous voyons beaucoup d'erreurs que nos jeunes commettent parce que ça pouvait être évité. Comment faire un CV? Les jeunes ne savent pas le faire, mais ils ont terminé. Et c'est pour ça qu'il y a plein de chômeurs. Et on engage les Indiens et les autres. Donc voilà un peu. Qu'on profite de l'expertise. Mon frère Simon Mbosso fut ministre. Il est professeur. Pourquoi on ne l'invite pas pour le partage seulement de son expérience? Mais on veut recommencer toujours à zéro. Nous sommes dans un pays où tout le monde est poseur de premières pierres.
Merci beaucoup. Quand vous citez le nom des ministres, moi, je suis prise à partie à chaque instant. Toi, tu ne peux pas manquer, tu es toujours autour des ministres. Allez, on prend ce message. Bonjour, Bob, bonjour Papa Simon et bonjour Monsieur Nzolatima. Bravo, félicitations, merci de nous réveiller. Merci pour ce genre d'émission, c'est ce que nous désirons pour une jeunesse forte. Bravo encore. Mais une préoccupation. On peut avoir plusieurs mentors. Est-ce que c'est une façon de se perdre? Parce que j'en ai pas mal de mentors. Est-ce que je vais me perdre? Deuxième question de M. Richard, depuis Kisangani, qui pose cette question. À chaque fois que je parle des gens, de mon mentor, tout le monde se moque de moi parce qu'il n'a pas un niveau universitaire, mais c'est quelqu'un qui a réussi la vie.
Je crois que faisons attention parce que mon père a fait quoi? Je crois 3 ans ou 4 ans d'école technique.
Apparemment, votre papa c'est aussi votre mentor. Hein?
Oui, mais c'est ça que je dis.
Il n'a fait que le dire.
Il n'a fait que 3 ans parce que à un moment donné, quand je venais, je voulais me barder de mon titre de licencié. Mais finalement, je me suis rendu compte que ce monsieur qui n'a pas fait les études universitaires, ce qu'il me disait était beaucoup plus pertinent. Donc, faisons attention. Ne croyons pas que ce sont les diplômes qui donne la valeur à un mentor. Non, c'est celui qui a traversé des épreuves, qui peut vous parler calmement. Allons au village, nous faisons l'agriculture. Je suis allé à Songololo, j'ai fait des champs de manioc. J'ai échoué, lamentablement, en mettant beaucoup d'argent. Et un jour, je parle avec un vieux qui me dit, mais non, chez nous au village, on multiplie les cultures. De telle manière que quand tu fais le sarclage de haricots, c'est le moment où tu fais le sarclage et tu vends les haricots. Quand tu fais le sarclage des arachides, c'est en ce moment que tu fais ton sarclage. Donc, ils gagnaient de l'argent en multipliant les cultures. Mais moi, avec toutes les techniques, voilà, on aura 5 hectares de manioc. Mais j'ai échoué. Donc voilà, il faut faire attention. Et puis, avoir plusieurs mentors, ça dépend de quel domaine vous voulez. Si vous voulez être agriculteur, n'allez pas chercher un médecin qui doit être votre mentor dans l'agriculture. Il faut vous concentrer à celui qui a déjà travaillé, qui a connu des échecs, qui peut mieux vous orienter. J'ai essayé de faire, je prends toujours le domaine agricole parce que c'est ce qui me motive maintenant. Une fois, je vais, pendant la saison, c'est donc septembre et autres, j'ai voulu commencer à mettre le tracteur. On m'a dit non, on met le tracteur déjà au mois d'août. Donc, tu vois, j'ai perdu toute une saison par ignorance. Donc, voilà, on peut avoir plusieurs mentors, mais dans quel domaine? Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est votre propre appel? Qu'est-ce que vous sentez au fond de votre cœur? Quelle est votre vocation? Vous voulez faire quoi? C'est dans ce domaine-là qu'il faut maintenant chercher un mentor. Moi, quand je sentais qu'il fallait que je commence à faire des formations, enseigner les renforcements des capacités, mon frère Mbos est ici. Nous avons voyagé. Nous sommes allés assister à des conférences de haut niveau par des grands professionnels, je peux dire chrétiens, pour voir si réellement ce que nous voulons faire était correct. Donc voilà un peu, donc il faut bien choisir le mentor.
Oui. Non. Oui, il faut éviter de trop se disperser. Trop de mentors, ça veut dire que vous êtes vous-même, vous devez partager une expérience avec plusieurs mentors qui peuvent se contredire, mais ça risque de vous embrouiller. Donc il faut, si vous avez bien choisi le domaine de votre appel, le domaine de votre vocation, Vous faites accompagner d'une personne qui non seulement a l'expérience professionnelle dans le domaine, mais avec qui vous avez une relation de confiance. Ça, c'est vraiment l'essentiel dans une activité de mentorat.
Merci beaucoup. Nous continuons, nous sommes en direct 081 99 66 098, l'émission Leader et Manager. Un plaisir de recevoir Monsieur Colin Zolatima, chef d'entreprise, qui nous parle de qui est ton mentor. C'est une contribution, hein, quelqu'un qui nous écrit depuis France, Maman Brigitte Ngwala, qui vous félicite pour cette émission et les courages que vous donnez encore aux jeunes. Merci à Maman Brigitte Ngwala. Nous allons prendre ces messages sonores. Je pense que c'est un message qui nous concerne. Nous allons tout de suite télécharger ces messages. En attendant, je prends d'abord ça. Donc, c'est un autre message. Bonjour au studio. Bonjour Bob et bonjour Monsieur Simon Bosso. Merci pour cette émission avec le mentor. Comment choisir un mentor? Je vous écris depuis Congo-Brazzaville.
Choisir un mentor, vous devez d'abord observer la vie de cette personne. Vous pouvez pas, on ne prend pas n'importe quel mentor. Il faut regarder sa vie. Est-ce que il marche dans l'intégrité? C'est quelqu'un qui a la compassion? Parce que, vous savez, le plus grand problème que nous avons, c'est l'égoïsme. Beaucoup de gens sont trop égoïstes. Donc, ils peuvent vous encadrer. J'ai vu des gens que les gens ont encadrés. Mais ils les ont encadrés dans la cupidité, les ont encadrés dans l'égoïsme. Il ne faut jamais partager. Il faut que les gens souffrent avant qu'ils bénéficient de votre argent et tout le reste. Et ça, ce n'est pas un bon mentorat. Le bon mentorat commence par la compassion. Il faut que la personne puisse d'abord lui-même vous aimer et aimer son prochain. Et ce n'est qu'après qu'il peut vous donner les vraies vertus du travail. Parce que le travail, on ne le fait pas pour soi-même. On fait le travail pour aider la communauté. Résoudre le problème de la communauté. Donc, un vrai mentor, pas un égoïste, mais qu'est-ce qu'il a réellement fait dans la société? Quel est son impact dans la société? Comment il a pu relever hein, les différents déficits qu'il y a dans la société. Donc voilà un peu ce que je peux dire en laissant encore mon frère qui est sur le terrain aussi.
Oui, et sur le plan des principes, il y a, le mentorat repose sur quatre piliers. Le premier, c'est l'expérience. Donc il faut voir le parcours de la personne, ses erreurs et ses réussites. Comme mon frère disait ici, il avoue ses erreurs. Souvent, quand nous faisons des encadrements de formation, beaucoup de gens ne parlent que de ce qui marche. Mais il faut voir des gens qui reconnaissent que j'ai échoué et comment j'ai pu après apprendre. Hein, parce que comme nous disons, je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. On apprend de ses échecs. La deuxième chose, c'est la transmission. La transmission de l'expérience et des connaissances est fondée sur des conseils, sur des modèles et des repères. Donc la personne doit être, comme dit mon frère ici, un modèle. Comme je l'ai toujours dit quand nous parlons du leadership, la plus grande valeur dans le leadership, c'est l'exemplarité. Les gens ne font pas ce que vous dites, mais font ce que vous faites. Qu'est-ce qu'ils peuvent imiter chez vous ? Troisièmement, c'est la relation de confiance. Très important. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous écoute de manière active et qui est disponible. Parce que si vous prenez quelqu'un qui n'a pas le temps, hein, vous venez là rapidement, il vous dit quelques mots et puis vous partez, vous n'aurez pas le temps d'approfondir. Et quatrièmement, quelqu'un qui s'occupe de votre développement, de votre autonomie. Il doit vous aider à devenir autonome. Il ne doit pas faire les choses à votre place, mais vous aider à devenir quelqu'un, à croître, à avoir des capacités de clarifier vos objectifs, des capacités de prise de décision et des capacités de croissance. Ça, c'est vraiment quatre piliers importants que nous pouvons partager.
Moi, je vais vous provoquer parce que vous avez des parcours et on comprend que vous avez aussi de l'expérience. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant pour laisser léguer ce que vous avez fait, ce que vous avez comme expérience aux jeunes et aux autres?
Nous faisons des émissions tous les dimanches sur Top Congo de 10h à 11h. Nous faisons des formations de renforcement des capacités. Dans la concession Nzolantima au rond-point Kimpuanza, tous les samedis de 10h à 13h. Nous invitons les jeunes.
Et c'est gratuit.
Et c'est gratuit. Ah bon? C'est gratuit. Nous demandons même à des églises, à des associations de nous inviter. Ils n'ont pas de frais à payer. On peut venir juste partager. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent pas apprendre. Les gens veulent mendier. La mendicité est la règle fondamentale dans notre pays. Vous savez, je vous ai parlé des plantes, ok? La culture hors sol, dans nos parcelles. En venant ici, j'ai vu tout le terrain, la concession qui est ici. Si tous les fidèles venaient simplement prendre la terre ici est très riche. On prend la terre. On va sur, ici, au marché, ramasser les cartons bruns. On coupe ça en petits morceaux. On enlève les plastiques, on met dans un bassin d'eau. Vous prenez les légumes, les racines des légumes. Vous les transplantez dans ces sacs, les matimbe et les autres. Après 20 jours, vous devenez autonome dans votre maison. Nous enseignons, mais les gens ne veulent pas. J'ai été à l'ISC, les étudiants en train de se plaindre. Je leur ai démontré qu'après 6 mois, s'ils plantaient 100 graines seulement de papayer, ils allaient commencer à avoir $4,000 tous les 2 mois, après 6 mois. Mais ils ne le font pas. J'ai été au campus, j'ai parlé aux étudiants, mais les gens ne veulent pas, les gens veulent la facilité. Le campus, il y a 44 000 étudiants. Je leur ai dit, si vous ne gagnez que 100 francs sur 2 000 étudiants, 100 francs seulement, ça fait 200 000 par jour. Fois 4, ça fait 800 000. Et fois 5, ça fait 1 million. Multiplié par 4, ça fait 4 millions par mois que vous recevez gratuitement. Pourquoi on ne le fait pas? Donc, il y a possibilité de créer. Nous ne faisons que ça. Ça fait plus de 15 ans que je me promène avec mon frère. Partout, on dit gratuitement. Mais les gens n'aiment pas. Mais quand ils apprennent qu'il y a des formations quelque part pour payer $500, ils vont payer. Mais quand tu leur poses la question de ce qu'ils ont appris, zéro. Les enseignements que nous donnons avec mon frère ont une valeur de $50,000. Je pèse bien mes mots. $50,000 de formation, mais que nous donnons gratuitement. Donc, tout étudiant qui vient, toute personne qui vient, quand on lui donne cette formation, c'est un chèque en blanc qu'on lui donne de $50,000.
Parce que l'information des gens viennent.
Mais il y a beaucoup de personnes qui nous appellent. Les gens qui sont à Bouta, qui ont commencé maintenant à travailler à Boende, au Kivu, un peu partout, au Kasaï. Comment transformer ce que vous avez entre les mains? Il ne faut pas regarder ailleurs. Qu'est-ce que vous avez? Tout le Congo, il y a des potentialités. Nous avons 2 millions de tonnes de poissons qui pourrissent. On ne produit que 100 000 tonnes. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des bateaux? Qui nous empêche?
Voilà. Merci beaucoup. Nous allons écouter M. Enceinte Dougoulou.
C'est une merveilleuse émission. Je félicite M. Colin, M. Mbosso et vous-même, Bob. Après les félicitations, je voudrais noter que le mentorat peut être facilité par une bonne éducation. À la base, M. Colin nous relate les relations avec son père. Il se propose même d'aller à la fin d'une formation dans le milieu universitaire animé de conférences. C'est une émission qui nous propose des solutions pragmatiques. Je me répète, j'ai dit que c'est une très bonne émission. Je suis heureux de la suivre. Je souhaiterais qu'elle soit rediffusée et qu'on y revienne encore. Alors, en ce qui concerne le pont de Boma, j'ai reçu les images parce que je suis un ingénieur de construction, ingénieur civil de construction. Nous sommes interpellés. Il y a un débat qu'on doit ouvrir. Il y a les inondations. Il y a les ponts qui s'écroulent. Il y a des œuvres inachevées. Il y a la voirie qui est sale. Il y a un sujet qui doit être débattu. Vous avez raison de nous interpeller. C'est Hyacinthe de la parole Sacré-Cœur.
Voilà, papa Hyacinthe Dzougoulou, monsieur Simo, il faut les faire revenir parce qu'on a beaucoup à parler aussi,
oui,
avec lui sur.
Hyacinthe Dzougoulou, c'est un ingénieur civil, ancien DG de l'ATRA, c'est quelqu'un qui
me félicitations.
C'est un ami et frère qui est avec nous à la DEC. En tout cas, j'ai noté votre disponibilité. Nous allons organiser une émission triangulaire avec Colin et vous-même pour parler de ces choses-là. Effectivement, cette histoire du pont, des temps que j'ai travaillé un peu à Matadi, on a vu qu'il y a un problème entre le niveau de la rivière Kalamu qui est plus élevé que le niveau de la mer. Ce qui fait que normalement, c'est un problème que les ingénieurs... Moi, j'en avais discuté avec des gens de la RVF, la Régie des voies fluviales. Il y avait un ancien directeur technique là-bas qui maîtrisait bien les problèmes. On devait obtenir... J'avais négocié une assistance de l'ambassade de Hollande. La Hollande est très, très...
Très avancée.
Exemple, est très, très fort dans ce domaine-là. Ils nous ont financé. Donc, décidé de financer 30 millions d'euros pour nous aider à aménager, notamment à provisionner de l'eau à Kisantu et aménager la rivière Nkissi et la rivière Kalamu. Il fallait que l'État congolais apporte 5 millions. Et ces 5 millions-là, on n'a jamais pu les apporter. Et ce financement est tombé à l'eau. Donc, il y a des problèmes. Nous avons des problèmes sur lesquels on doit réfléchir. Nous allons, après la rediffusion de cette émission, nous allons essayer de programmer une émission sur ces questions importantes que tu as bien voulu soulever, mon frère Hyacinthe. Merci beaucoup pour ta contribution.
Mais vous direz quoi par rapport à ce qu'a dit papa Hyacinthe, problème d'éducation aussi, hein?
Oui, mais l'éducation, vous savez, on a tué l'éducation dans notre pays depuis 1978.
On a tué?
Oui, sciemment. On a tué l'éducation. Après la mort de maman Cécé, parce que c'est pour ça qu'il faut qu'on revienne toujours dans l'histoire. Après la mort de maman Cécé...
Nous mettons déjà les bouchées doubles parce qu'elle est en...
Oui, oui. Donc, on a rabattu la majorité des filles à 14 ans. C'est à partir de là que tout est parti. Tous ces phénomènes que nous avons chez et tout le reste, c'est ça, les enfants qui sont dans la rue. Ça a été bien planifié. Et depuis ce temps, ceux qui ont aujourd'hui 40 ans, quelle est l'éducation de base qu'ils ont? Donc, nous devons revenir d'abord dans l'éducation. Et cette éducation, comme on a un peu échoué dans nos familles, il faut que l'école ramène cette éducation. Or, malheureusement, l'école est devenue complice. Nos universités... Nos jeunes filles qui mettent des faux ongles, est-ce qu'on sait que c'est cancérigène? Dans 2 ans, on va leur couper, amputer des doigts? Ça, on ne veut pas y réfléchir. Les mèches, ça crée des maladies, surtout les mèches naturelles. Ça crée des maladies. Vous avez les défrisants qui créent des cancers d'utérus. Aux États-Unis, il y a des procès. C'est pour ça que vous voyez que toutes les filles, enfin la majorité des filles...
Il y a l'hydroquinone, que vous avez interdit quand j'étais au ministère.
Vous voyez, donc il y a des choses pour lesquelles nous devons revenir à la base. Et c'est ça la mission. Et je remercie ce genre d'émission à la radio, parce que nous savons qu'il y a des millions et des millions de personnes qui suivent, qui doivent se remettre d'abord en question. On ne doit pas chercher... On voit des étrangers venir ici. nous donner des conseils, mais connaissent-ils le milieu congolais? Ça, c'est un problème. Or, nous qui connaissons, on ne nous appelle pas. On ne nous appelle jamais. Nous allons dans beaucoup de conférences, vous écoutez ces experts parler, ce sont des futilités et des bêtises. Mais nous qui avons l'expertise sur place, on nous exclut. Bon, bref. Donc voilà, hein, nous sommes prêts à partager nos petites expériences.
Il n'est pas contre les femmes, hein, contre les mamans. Il a raison totalement, ça marche. Il a raison. Et ça nous épargne aussi, les papas à la maison. Allez, merci beaucoup à vous. Monsieur Dzogolo a dit quelque chose très capital. Je le disais aussi aux autres. En fait, loin de moi de minimiser les émissions. Mmh. Mais ce genre d'émissions, il y a quelqu'un qui m'a dit, votre émission, c'est trop intellectuel. Non, c'est trop intellectuel. Mais vous voulez suivre quel genre d'émission? Mais si vous ne voulez pas suivre cette émission, appelez les enfants à suivre cette émission parce que c'est pour eux. Hein? Donc, ces genres d'émissions sont des émissions à profiter, hein? À mettre, conserver cela. D'ailleurs, cette émission va être postée sur le site web des Radio Maria. Vous pouvez écouter à tout moment, à chaque instant. Merci beaucoup à vous. Peut-être un dernier mot?
Un dernier mot, comme vous venez de le dire. Formons maintenant nos enfants, puisque nous, les adultes, puisque nous ne voulons plus écouter, laissons nos enfants écouter. Le travail que nous faisons des champs, hein, avec les sacs, ce sont les enfants qui l'appliquent mieux dans les maisons. Donc, donnons maintenant la chance à nos enfants. Puisque nous estimons que nous allons déjà mourir, ok, laissons un héritage à nos enfants d'une bonne éducation, d'une bonne pénétration dans notre société. Car c'est ça le vrai patriotisme, aimer son pays, transformer son pays et laisser des vertus au niveau de son pays. Voilà le dernier mot que je peux donner.
Merci beaucoup. Ça, je pense que ça va devenir normal. Une école, faut toujours. Je surdemande de Monsieur Simo de venir toujours nous stimuler.
C'est avec plaisir.
Voilà. Monsieur Simo.
Je termine en tout cas par une phrase que j'ai suivie dans une émission sur YouTube. Lorsque l'intelligence se tait, la stupidité prend le trône. Et règne avec conviction.
Oui, ça veut tout dire.
Ça veut tout dire. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Et nous sommes là. Nous partageons tous les jeudis ce que nous avons appris et ce que nous essayons de pratiquer. Nous invitons nos frères et sœurs qui peuvent nous accompagner. Et mon frère Colin fait la même chose sur Top Congo tous les dimanches. Donc, nous vous invitons à écouter. Écoutez, si vous dites que c'est trop haut,
on va redescendre. Ou bien, comme on dit à Kinshasa, na lingala facile. Hein, on viendra na lingala facile et personne n'aura d'excuses.
D'abord, les gens doivent mettre la volonté. La volonté d'abord. Et puis, les restes vont venir après. Merci beaucoup à vous. Merci, monsieur Simon Mosso. Merci, monsieur Colin Zolatima. C'était un grand plaisir de vous recevoir ici et partager votre expérience. L'émission reste disponible sur le site web des Radio Maria. Beaucoup de gens demandent la rediffusion de cette émission. Les programmes vont normalement ou certainement discuter pour trouver un espace pour la rediffusion. Mais nous avons pour l'instant une rediffusion tard la nuit, vendredi à 10h du matin. Ce n'est pas seulement pour les insomniaques, mais merci à tout le monde, merci à Radis qui était de l'autre côté de la technique. On vous fixe rendez-vous très prochainement. Restez nos fidèles, surtout à l'écoute de la fréquence maternelle. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Leader et manager, une mission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et manager, une mission d'information et de formation au leadership et au management. Suivez tous les jeudis à 9h30. Leader et manager, une mission d'information.